entendu parler. Je suis très heureux, dans ce 16 décembre, d'ouvrir une série sur Penser la littérature aujourd'hui, qui se déroulera dans tout ce premier semestre, dans cette fin de dernier trimestre 91, et se déroulera pendant tout le semestre 92, et que la revue Parler a confié à notre ami Jean-Pierre Salgas. Et première séance, donc, avec Pierre Bourdieu et Michel Chailloux, je crois que la première chose, c'est que ça, Jean-Pierre Salgas définisse l'esprit même de cet état de la critique nous souhaitons aborder au cours de cette série. Le premier titre de cette séance même est Sociologie de la littérature et poétique de la sociologie, ce qui fait notamment référence à la récente publication sur le champ littéraire des actes de la recherche sociologique que vous pouvez voir en vitrine. Mais je laisse le soin à Jean-Pierre Salgas d'ouvrir tout à la fois ce cycle et cette séance.
Oui, mais je vais pas monopoliser la parole très très longtemps. Enfin, je vais la laisser assez immédiatement aux deux interlocuteurs que vous êtes venus entendre et qui sont ce soir à mes côtés. Pour ce qui est de l'esprit général de ces rencontres, les raisons auxquelles elles répondent selon moi, j'allais dire, je vous renvoie, et éventuellement on pourra en parler tout à l'heure, je vous renvoie au papier qui doit être distribué à l'entrée de la salle et où j'explique d'une certaine façon, enfin, qui est une sorte d'exposé des motifs où j'explique un peu ce que je veux faire avec ces rencontres, qui à chaque fois mettront en présence un écrivain et un critique ou un théoricien de la littérature, enfin bon, qui sont toujours comme ça fondés sur le même principe, avec le pari un peu à contre-temps que ces deux personnes, contrairement à ce qui se répète en général partout, peuvent dialoguer ensemble. Je dis ce qui se répète partout, puisque tout le monde dit que les écrivains n'ont plus la tête théorique, etc. etc. Bon. Ça, c'est, bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Je rappelle juste, et là aussi, enfin, je ne vais pas non plus vous infliger une biobibliographie de Pierre Bourdieu et de Michel Chailloux. Je voudrais juste rappeler, concernant Pierre Bourdieu, que le dernier numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales était consacré au champ littéraire et contient un très long texte qui est d'ailleurs la énième version, j'allais dire, enfin la reprise par Pierre Bourdieu d'un travail qu'il poursuit depuis très longtemps sur le champ littéraire. On en parlera tout à l'heure. Et vous dire aussi que le prochain numéro d'actes de la recherche en sciences sociales, qui devrait sortir début janvier, porte comme titre La souffrance et est en fait consacré à des entretiens avec des individus anonymes, entre guillemets. Et dans la préface que Pierre Bourdieu m'a communiquée, il y parle d'une autre façon, là aussi nous en reparlerons, de la littérature, non plus la littérature en tant qu'objet pour la sociologie, mais peut-être le terrain commun du travail de l'écrivain et du travail qui serait commun entre le travail de l'écrivain et le travail du sociologue. Toujours concernant Bourdieu, je voudrais signaler la parution début janvier au Seuil d'un livre entretien, enfin non pas d'un livre entretien au sens ordinaire que l'expression a, mais d'un livre qui est fait à partir d'entretiens avec un jeune sociologue franco-américain. Ce livre s'appelle Réponse pour une anthropologie réflexive et il y est abondamment question, peut-être y ferons-nous référence, il y est abondamment question de la littérature. Enfin, toujours concernant Pierre Bourdieu, je voudrais dire qu'il travaille, et d'ailleurs ce texte qui s'appelle Le champ littéraire en est un morceau, un fragment, il travaille un livre sur Flaubert ou sur le champ littéraire à l'époque de Flaubert, à la fin du siècle précédent. Concernant Michel Chailloux, là aussi, pas de fiche bibliographique, biobibliographique globale, je voudrais juste rappeler qu'il dirige chez Attier la collection Brève littérature et qu'il a lui-même, dans cette collection, signé avec son épouse un petit guide de pédestre de la littérature française au XVIIe siècle. Et c'est finalement d'abord, je dirais, à ce titre, enfin à cause de ce petit guide pédestre, à cause de cette collection, autant qu'à cause de ses romans probablement, que je lui ai demandé de participer à ce à ce dialogue, qui s'intitule, comme vous l'avez vu sur le programme, Poétique sociologique et sociologie poétique. Il est tout à fait évident que je porte seul la responsabilité de ces quatre mots, qui d'ailleurs n'ont jamais le même sens. Mais enfin, grosso modo, par poétique sociologique, je désigne les efforts de la sociologie, enfin les efforts, efforts couronnés de succès, enfin le mot effort est à prendre au sens strict, les efforts de la sociologie de Pierre Bourdieu de penser non pas seulement l'extérieur des textes, le contexte, non pas seulement les problèmes classiques de la réception, etc., etc., mais de penser à la fois le fonctionnement même des textes et la singularité des auteurs. Et par sociologie poétique, je désigne de façon floue probablement quelque chose que je crois percevoir à l'intérieur d'un livre comme Le Petit Guide Pédestre de Michel Chailloux, c'est-à-dire la tentative pour un écrivain non seulement d'écrire l'histoire de la littérature et de ne pas l'écrire sur le ton habituel sur lequel les écrivains l'écrivent, de l'écrire aussi, je dirais peut-être, c'est une chose dont nous parlerons, du point de vue des vaincus de cette histoire. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je vois, vous avez dû sentir probablement peut-être un terrain de débat a été possible. Ce terrain, on pourra encore le désigner de deux autres mots qui sont peut-être les deux mots clés, l'un pour l'un et l'autre pour l'autre. Pour Pierre Bourdieu, le mot de champ littéraire, qu'est-ce qu'un champ littéraire, qu'est-ce que l'invention littéralement du concept de champ littéraire lui permet de penser que la sociologie ordinairement ne pensait pas, enfin j'entends la sociologie des années 40, 50, 60 par exemple. Et pour Michel Chailloux, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est d'essayer de lui demander ce qu'il entend par le roman de la littérature, puisqu'il veut écrire au fond le roman des romanciers, le roman de l'histoire de la littérature. Donc c'est peut-être autour de cette notion de champ et cette notion de roman que pourrait se reformuler ce que j'ai maladroitement dit, mais pour le simple plaisir de rhétorique du titre, avec les quatre mots que je vous ai dit. Je vais m'arrêter là et je vais tout de suite donner la parole à Pierre Bourdieu, peut-être pour qu'il s'explique sur... il faut vous dire sur quoi. Je demanderais juste une chose. Pour ma part, j'étouffe sous les projecteurs. Je ne sais pas si on pouvait faire quelque chose.
Je remercie Jean-Pierre Sargas et de ce qu'il a dit dans sa présentation et surtout d'avoir ménagé cette confrontation qui, selon moi, peut permettre de mettre en évidence par le contraste et peut-être aussi de mettre en valeur par la différence de manière qui me paraissent à la fois opposées et également respectables de considérer la littérature. En effet, je pense que le respect que nous avons, que les deux contestants ont l'un de l'autre, est assez grand pour que l'un et l'autre puissent affirmer sans complaisance les différences. Et pour ma part, je ne reculerai pas devant l'effort pour essayer de montrer en quoi ce que fait la sociologie est différent d'une approche littéraire de la littérature apparemment aussi proche que possible de la sociologie. Donc, il me semble donc que, si je cite Michel Chailloux, il me semble que son effort pour faire entrevoir, pressentir le dehors des livres, comme il dit dans l'avant-propos au Petit Guide Pédestre, cet effort-là, pour proposer une sorte d'évocation littéraire de l'environnement, j'emploie à dessein un mot ambigu et vague, l'effort donc pour proposer une évocation littéraire de l'environnement des écrivains du passé, cet effort-là est à la fois très proche de l'idée qu'on se fait communément de la sociologie de la littérature et très éloigné en réalité de l'idée que je m'en fais. Alors, donc cette confrontation devrait nous permettre, je crois, de poser deux ensembles de questions qui me paraissent au centre de toute théorie possible du texte littéraire. Premièrement, l'histoire de la littérature doit-elle être nécessairement littéraire? Et je pense qu'un certain nombre d'écrivains qui ont écrit sur la question pense que oui. Et du Comte Sainte-Beuve de Proust à des affirmations plus récentes de l'autonomie de la littérature, je pense que il y a une affirmation commune qu'on ne peut parler de la littérature que littérairement. Et c'est une proposition qui me paraît absolument cohérente, consistante, digne d'être défendue, mais que, en tant que prétendant à donner une vision scientifique de la littérature, je suis obligé de contester, tout en reconnaissant la pertinence de cette position. Donc, une telle histoire littéraire de la littérature n'est-elle pas menacée de faire pléonasme, pour employer l'expression de Mallarmé, avec la littérature? Est-ce qu'elle n'est pas nécessairement condamnée à devenir un roman de la littérature, et donc à laisser la porte ouverte, laisser la place libre pour une science de la littérature? Bon, ça c'est le premier ensemble de questions. Deuxième ensemble de questions, une histoire scientifique de la littérature est-elle possible, est-elle légitime? Beaucoup d'écrivains contestent la possibilité même d'une telle entreprise, et non seulement la possibilité, mais la légitimité d'une telle entreprise. Une histoire scientifique de la littérature est-elle possible? Peut-elle et doit-elle être littéraire, c'est-à-dire littérairement acceptable, c'est-à-dire acceptable des écrivains, par les écrivains? N'y a-t-il pas une contrariété essentielle, une sorte d'incompatibilité d'humeur entre la science et la littérature? La littérature, pour donner toute sa force à la thèse la plus opposée à la sociologie, j'y reviendrai, la littérature est une production culturelle, comme les autres en un sens, sous un certain rapport, et à ce titre, elle peut être traitée comme les autres productions culturelles. Il y a une sociologie du droit, comme il y a une sociologie de la science, comme il y a une sociologie de la littérature. Reste que cette réduction de la sociologie qu'opère la sociologie, ne manque-t-elle pas la spécificité de la littérature, et en particulier, et j'y reviendrai, le plaisir littéraire? Est-ce que la science n'est pas condamnée à rater l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir littéraire, que seule une histoire littéraire de la littérature pourrait restituer? Bon, voilà les problèmes tels que je les vois, et pour essayer d'y répondre dans un premier temps, je vais essayer de faire une lecture symptomale, comme on disait à une autre époque, et je n'ai jamais pratiqué ce vocabulaire en ces temps. On peut essayer de faire une lecture de l'avis au lecteur du petit guide pédestre. Cet avis au lecteur me paraît contenir un programme tout à fait cohérent et tout à fait légitime de confrontation avec les œuvres. Bon, en fait, je pense qu'on pourrait résumer ce programme par une analyse des deux mots-clés, petit et pédestre. Bon. Petit, bon, il est vrai que c'est une entreprise qui prend le parti du petit et des petits. C'est une entreprise qui entreprend de réhabiliter les minoresses. Ce que la représentation canonique de la littérature, c'est-à-dire la représentation universitaire, rejette dans les marges de la littérature, et Michel Chailloux, de manière très cohérente, se situe d'emblée donc du côté des petits, des minoresses, et du côté des parties mineures de ces minoresses. Par exemple, il y a une remarque tout à fait intéressante à propos de Saint-Amand, dans laquelle il dit le Moïse, les vers pompeux du Moïse, on les laissera un petit peu de côté, au profit plutôt de telle épigramme plaisante à propos d'Évreux, qui contient peut-être plus de sel et plus de vertu littéraire que les œuvres plus consacrées. Donc, aussi bien dans la petite vertu que dans le petit guide, Michel Chailloux redéfinit les limites du littéraire, ce qui est un coup de force contre la délimitation des auteurs canoniques qu'opère la tradition de l'histoire littéraire. Il redéfinit donc les limites du littéraire en redéfinissant la population des littérateurs et en évoquant aux côtés des auteurs canoniques, c'est-à-dire canonisés par l'histoire littéraire et les professeurs de littérature, des écrivains inconnus et méconnus. Il se range d'autre part du côté du pédestre, et on sait que la prose se disait en latin sermo pedestris, c'est-à-dire ce qui est à la fois commun, mais aussi terre-à-terre, vulgaire et dédaigné par les arts majeurs, à savoir la poésie. Et le mot « pédestre » a gardé son sens dans l'expression anglaise « pédestre ». En fait, je pense que en se rangeant du côté du pédestre, Michel Chailloux se range du côté que l'on assigne habituellement à la sociologie, science par excellence pédestre, qui est souvent perçue comme science vulgaire et vulgarisante du vulgaire. Bon, ce qui fait que l'on interdit d'ordinaire à la sociologie de s'approcher de cette chose sacrée qu'est la chose littéraire. Bon, j'ai donc beaucoup de gratitude à l'égard de Michel Chailloux pour opérer cette double désacralisation, et je voudrais montrer comment très vite, toujours dans la vie au lecteur, cette sorte de manifeste méthodologique écrit sur un ton littéraire, c'est-à-dire sur le mode de celui qui n'écrit pas un manifeste, précisément, c'est là déjà une différence entre le sociologue qui est obligé de dire les choses en mettant les points sur les i, et l'écrivain qui peut se permettre, ce que le sociologue a très souvent envie de faire, de rester allusif, évocateur et suggestif. Bon, je pense que Michel Chailloux, mine de rien, donc propose un manifeste, et il a, on pourrait dire qu'il a pour dessein de faire entrer dans le monde littéraire les parerga et paralipomena, pour employer un titre savant et célèbre de Schopenhauer, c'est-à-dire parerga, c'est le pluriel du fameux parergon d'Eridéen, c'est-à-dire les à côté de l'œuvre, et paralipomena, c'est l'ensemble des choses qu'on laisse de côté. Tout ce qui est laissé à côté par le texte, les commentateurs du texte, les détails, les petits riens qui, en fait, font la vie réelle du texte. C'est donc une sorte de renversement révolutionnaire de la hiérarchie ordinaire des intérêts littéraires qui est proposé, et je cite, « Cette histoire de la littérature commence dans la rue, au hasard des rencontres, au soleil, à l'ombre, les pieds dans la crotte. » Et un peu plus loin, à la page 184 exactement, Michel Chailloux évoque Saint-Amand, académicien un peu dissident, dont on ne savait pas trop quoi faire, et à qui on confie, qui avait refusé de faire un discours inaugural, enfin qui était un académicien mal élevé, et, il en existait à l'époque, on donne à Saint-Amand pour mission de faire un dictionnaire des termes grotesques, bon, on retrouve la crotte, ou grotesque, je pense que l'intérêt de Michel Chailloux pour la rue, la crotte et le grotesque, enfin, participe de ce projet de réhabilitation de la littérature dans sa réalité ordinaire. Bon, et je prolonge un tout petit peu. La rue, ce sont les lieux, les adresses, les odeurs, les mauvaises odeurs, les dehors, le dehors des livres, c'est-à-dire tout ce que, précisément, l'histoire littéraire évacue, et on pourrait ajouter le corps, tout simplement. Il s'agit de redonner corps aux auteurs. Et Michel Chailloux dit quelque part qu'il veut parler d'une histoire des auteurs plutôt que des œuvres, enfin, et ces œuvres désincarnées, il faut les réincarner, leur redonner un corps. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit d'évoquer, comme on évoque les esprits, par la magie de la nomination. Michel Chailloux parle sans cesse du pouvoir de nommer qui appartient à l'écrivain. Il s'agit d'évoquer tout ce qui fit et tout ce qui fut la vie des auteurs et ces auteurs même, plutôt même que les œuvres, ce qui ne veut pas dire que les œuvres soient absentes. Au fond, Michel Chailloux sait que, comme disent les Kabyles, je cite, citer, c'est ressusciter. C'est-à-dire, je cite encore Michel Chailloux, cette fois-ci non plus les Kabyles, réveiller les ombres. Donc il demande aux ressorts et aux ressources de la littérature, et d'abord à l'écriture, c'était au sens de l'anecdote, du détail, du fait divers. Je cite la petite vertu, suffirait-il de compulser les faits divers pour constituer la secousse poétique d'une époque? Il y a donc une valorisation du fait divers. Il demande donc au détail, l'anecdote, au fait divers, à l'art du pittoresque, du détail familier, domestique, distrayant, je cite encore, au coin des œuvres plutôt qu'au centre. Il demande à tout cela de faire ressurgir, et je cite encore, l'écrivain et son décor, mais aussi les événements, les passions qui le meuvent, travail de la main dans le siècle, des bras, des jambes, de la langue dans la bouche, saillie, colibé, on voit le corps est très présent. Il entend donc, et là je crois qu'on arrive à ce qui me paraît le centre du projet, il entend se donner et donner au lecteur le moyen d'entrer en familiarité, l'expression est extrêmement belle et précise, d'entrer en familiarité avec les auteurs, ou on pourrait dire, en reprenant une expression de Saint-Amand qui n'est pas employée en ce contexte, de trinquer avec les morts. Je pense que l'expression est tout à fait fondamentale. Bon, dans trinquer avec les morts, il y a l'idée à la fois de redonner la vie et il y a à la fois l'idée de familiarité. On ne trinque pas avec un auteur canonique, embaumé, académique. Bon. Donc, l'intention de Michel Chailloux me paraît être de redonner, de tirer parti de toutes les ressources de la culture, voire de l'érudition, ce qui est en apparence le plus antithétique à la vie, ce qu'on appelle parfois la bibliothèque, non pas pour contribuer à la célébration sacralisante du culte des classiques, mais au contraire pour essayer de les désacraliser, de les arracher au sanctuaire de l'histoire et de l'académisme, en profitant de toutes les ambiguïtés, toutes les associations libres qui sont rendues possibles par un usage libéré et créateur des références historiques. Alors je pense ici au rêve de Saxe, mais je ne commenterai pas, où ceci est mis en pratique avec la continuité étant totale entre les œuvres dites littéraires et les œuvres dites d'histoire littéraire. Bon. Si, évidemment, tout ceci est soumis à critique, mais Michel Chaillou est là et il me corrigera. Bon, alors ceci, cette entreprise, donc je le dis très sincèrement, mais non seulement sympathique, elle m'est, familière, bon, elle m'est intime, et je suis très heureux de rencontrer un écrivain qui parle ainsi de la littérature et qui nous libère des blanchotteries, des discours heideggero-hölderliniens sur la littérature, de la lecture Mallarméo, etc. Bon, tout ça, je suis très très heureux d'entendre ce son littéraire qui me permet d'exprimer au fond mon sentiment sentiment spontané pour la littérature, sans avoir le sentiment de succomber à, de sacrifier à un culte dérisoire, d'autant plus dérisoire qu'il est d'origine historique très récente. Enfin, ce qu'on oublie, c'est que ce rapport à la littérature est une invention tout à fait récente, qui ne remonte pas au-delà du XIXe siècle. Et donc l'intention de réactiver, de revivifier, d'être en quelle sorte le Harnoncourt de la littérature, c'est-à-dire de rejouer avec des instruments anciens, de la musique ancienne, etc. Bon, tout ça me plaît beaucoup. Il y a un travail de débanalisation, pour appeler ça c'est du Max Weber, de débanalisation, de déroutinisation, de désacadémisation, et je pense que c'est vital et que effectivement il incombe aux écrivains de faire ce travail. Pour arracher donc la littérature à l'alternative du prophétisme et du sacerdoce. Bon, et ça, c'est une tradition, enfin, encore, j'emploie des oppositions sociologiques traditionnelles. Au Moyen-Âge, certain Guillaume de la Porée disait qu'il y a deux catégories de personnages littéraires, enfin, des Moyen-Âge, il s'agissait des écritures. Il y a les auctores, enfin, ceux qui lisent les textes de manière inspirée, de manière prophétique, et puis il y a les lectores qui les lisent de manière routinière. Bon, et nous avons toujours cette alternative. Il y a la lecture inspirée des prophètes. J'ai évoqué quelques bon, et puis il y a la lecture routinisante du sacerdoce quotidien qui répète les évangiles. Bon, et je pense qu'il est important que de temps en temps on rompe avec cette sorte de culte routinier et un petit peu ennuyeux. Bon, alors donc je suis tout à fait favorable à cette position, et je pense aussi que dans une certaine mesure, cette voie est non seulement légitime, mais en un sens indépassable dans son ordre. Bon. Faire une lecture sensible des choses sensibles, faire une critique de créateurs qui restituent aux œuvres leur impact esthétique, enfin leur aesthétisme, leur appel au sensible, c'est absolument légitime. Alors, cela dit, je vais, après m'être fait l'interprète de ce que j'entends être l'entreprise de Michel Chaillou, je vais me dissocier très fortement de cette manière de faire, non pas pour contredire, je dis bien, ce que je dis est tout à fait sincère, je ne retire rien, mais je pense que la sociologie ne fait pas ça. Bon, alors paradoxalement, je pense que l'intérêt de l'entreprise de Michel Chaillou, c'est qu'elle donne apparemment satisfaction aux sociologues. Plus exactement, elle donne satisfaction à l'idée que la plupart des gens, et en particulier les écrivains, se font du sociologue. Alors, je ne vais pas énoncer, parce que je ne suis pas masochiste, la représentation la plus répandue du sociologue, qui, malheureusement, est vraie de la plupart des travaux sociologiques. Mais le sociologue, bon, je peux citer enfin, le fameux texte de Heidegger sur le on, Grassmann, est en fait un texte qui s'adresse aux sociologues. C'est pas par hasard, c'est les philosophes l'aiment tellement. Bon, ce texte, dans ce texte, enfin, les questions de Dasman, bon, Heidegger s'en prend essentiellement aux moyens, à la moyenne, à la statistique. Il s'en prend même au transport en commun. Il s'en prend au welfare state, enfin, il s'en prend à la sécurité sociale, le moyen, Fürsorge, etc. Bon. Et au fond, il exprime ce qui est un des fantasmes communs aux philosophes heideggero-mallarméens et aux à un certain nombre d'écrivains le fantasme selon lequel la science, de façon générale, la science de l'homme, et surtout lorsqu'elle s'applique aux écrivains et aux philosophes, la science de l'homme et des accomplissements suprêmes de l'humanité que sont la philosophie et la littérature est nécessairement réductrice puisqu'elle ramène toujours l'extraordinaire, bon, c'est un mot commun à Heidegger et à Max Weber, elle ramène toujours l'extraordinaire, l'unique au médiocre, au moyen, elle ramène les quelques grands auteurs uniques à la masse des petits auteurs justement inconnus, elle les ramène au contexte, au hors-texte et au social, à tout ce qui fait horreur, assez naturellement d'ailleurs, hein, aux écrivains et pas seulement à eux. Alors, donc, je voudrais dire que cette vision de la survie est tout à fait opposée à la mienne. Et je pense, et là, bon, je vais être plus hésitant parce que je vais marquer ma différence, je pense que la sociologie a un programme qui n'est pas du tout celui que j'ai évoqué. La sociologie opère aussi un renversement, analogue à celui qu'a opéré Michel Chaillou, un renversement de la hiérarchie ordinaire. La sociologie est conduite aussi à porter attention aux minorès, aux auteurs oubliés. Elle est amenée aussi à restituer le contexte dans lequel vivaient les auteurs, mais d'une manière tout à fait différente. Bon. Alors, ici, bon, je pense qu'on y reviendra dans la discussion, je vais simplement marquer la direction dans laquelle se situe l'opposition. Au fond, ça serait pour la vieille opposition platonicienne du sensible et de l'intelligible. Bon, alors, je suis désolé d'évoquer pareil topos, mais je pense que c'est là que se situe la différence. Bon. La sociologie d'écrivain que j'ai évoquée tout à l'heure est attentive au concret, au visible, au sensible, et elle postule tacitement que le plus réel, c'est aussi le plus concret. Bon. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociologues qui acceptent ce postulat, qui s'opposent à la sociologie telle que je la conçois, au nom la complexité de la vie, de l'unicité des existences, etc. etc. Bon. En fait, je pense qu'une science sociale digne du nom de science se range du côté du philosophe tel que le désigne Platon. Platon faisait une définition qui me paraît très pertinente pour centrer notre débat. Platon opposait le philosophos, le philosophe, à je ne dirais pas en grec, ça ferait pédant, ce qu'il appelle l'ami des belles voix et des beaux spectacles, c'est-à-dire celui qui est sensible au sensible. Bon. Et il dit que il dit que l'ami des beaux spectacles et des belles voix est attaché au visible, au sensible, au directement perçu, et que la science, elle, l'épistémé, doit chercher du côté de l'invisible qui ne se livre pas au sens. Bon, alors je vais, ayant donc rappelé ce topos, il faudrait que je donne des exemples. Bon, je vais dire tout de suite la notion de champ. Ou alors, pour faire comprendre, je vais lire un passage du livre de Michel Chaillou où il énumère une série d'écrivains. Il dit « Gouspin a-t-il existé ?» En patois normand, Gouspin signifierait « gamin, luron ». Et Pontenard, on apprend qu'il possède une maison de campagne en Bretagne. On devine Malenoé, je ne sais pas bien prononcer, mais personne ne sait. Parce que bon, le marquis de Marie de Malenoé, déjà vu avec Théophile, lieutenant du roi, gouverneur de Port-Louis, d'Ennebon, de Quimper. Mébardin, né à Rouen en 1590. Il sera le premier académicien à mourir en 37 principales lois, etc. Bon. On a ainsi une énumération, si vous voulez, vous pourrez la regarder, une longue énumération d'une série d'écrivains auxquels sont associés un certain nombre de propriétés. On vous dit lieutenant du roi, on vous dit mort en telle année, etc. etc. Bon. Le sociologue travaille aussi sur des individus auxquels il attache des propriétés. Mais ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les individus et les propriétés, même si ces individus peuvent être beaucoup plus évocateurs que tout ce que le sociologue peut tirer des analyses, des mécanismes qu'il peut en faire. Le sociologue, lui, s'appuie sur la connaissance des individus et de leurs propriétés pour essayer de reconstituer le système des relations qui manipulent les individus. Alors, je vais employer une analogie sauvage qui risque de révolter en vous beaucoup de choses, bon, et vous faire crier au déterminisme. Bon, on peut dire que Michel Chailloux est à la sociologie telle que j'essaie de la faire comme quelqu'un qui décrit très bien le ciel étoilé par rapport à celui qui décrit les mouvements des planètes avec beaucoup de talent, les couleurs, etc. Bon, par rapport à celui qui essaie de découvrir les lois selon lesquelles se déplacent les planètes. Bon. Alors, évidemment, le sociologue peut paraître très arrogant, très ambitieux, très réducteur, très déterministe. Enfin, tout ça, on le lui assigne. En fait, à mon sens, c'est la seule tâche possible si l'on parle de science. Bon. Et si je suis obligé de pousser un peu, c'est qu'il y a des gens qui sont très volontiers acceptés des écrivains ou des littérateurs, qui jouent le double jeu de l'écriture et de la science. Bon, je peux nommer Barthes, mais je peux en nommer des tas d'autres. Il y a des gens qui, faisant profession de faire de la science, leurs mots, leur concept est toujours en logis, j'appelle ça l'effet de logis, hein, sémiologie, etc., bon, prétendent faire de la science, bon, dès qu'on les coince sur le terrain de la science, ils invoquent le plaisir, la sensibilité, le désir. Bon, bon, et dès qu'on les coince sur le terrain du plaisir, du désir, etc., ils évoquent la science. Bon, et cette espèce de double jeu permanent, je pense qu'il est très malsain, et je crois qu'il est important de trancher les différences, non pas du tout pour créer des murs et des frontières, parce que les frontières et les murs sont entretenus par les médiocres des deux côtés. Ce sont les mauvais poètes et les mauvais écrivains qui disent horreur sur la littérature, ça je pourrais en citer. Ce sont les mauvais sociologues qui s'ingénient à écrire mal pour avoir l'air scientifique. Bon. Donc je pense que mon but n'est pas du tout de créer des frontières, mais au contraire de dire aussi clairement que possible la logique des deux ambitions, l'ambition esthétique, de l'esthétisme, du plaisir, du sensible, etc., bon, et la logique de la science qui est du côté de la rigueur des relations intelligibles, imperceptibles, invisibles, échappant aux agents, ne faisant pas l'objet de discours évocateurs, bon, mais permettant de définir la logique selon laquelle les écrivains écrivent, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple, parce que j'ai été très abstrait, mais prenons un exemple. Je prends un exemple tout à fait banal. Flaubert. Bon, Flaubert dit, il se plaint dans sa correspondance, on ne le prend pas au sérieux, on ne prend pas au sérieux son ambition, parce qu'avec son exis corporel, enfin son corps de gros normand puissant, etc., on pense toujours qu'il fait des choses un peu rustiques, vulgaires et grossières. Voilà. Bon. Alors là, je pense Michel Chailloux ferait sûrement une page très belle sur le corps de Flaubert, sur ce qu'en disent les Goncourt, qui évidemment se prennent naïvement au piège des apparences de Flaubert, qui ne voient pas du tout en lui, et qui disent en lui un romancier réaliste, comme on disait à l'époque, sous prétexte qu'il avait un corps de romancier réaliste. Bon. Chabrier a été pris pour un musicien léger, il se désespérait parce que c'était un bon gros. Bon, je pense que les accents des écrivains, qui sont très peu rapportés en littérature, sont rapportés quand les écrivains soit sont stigmatisés pour leur accent et sont renvoyés à leur province, comme le fameux Alphonse Rabe, qui mériterait à lui seul une monographie à la fois littéraire et sociologique. Bon, les écrivains, quand on signale leur accent, par exemple Courbet, on dit qu'il avait un accent franc-comtois. Pourquoi ? Parce qu'il en a tiré un parti esthétique. Je relève ces accents. Je déplore qu'ils ne soient pas plus souvent signalés par les écrivains, par les mémorialistes, etc., etc. Mais je ne les considère pas pour leur pittoresque, je les considère comme révélateurs d'une trajectoire sociale, d'une position dans l'espace social et comme prédictif, par exemple, de l'expulsion. C'est-à-dire, par exemple, du midi, quand on débarque chez les symbolistes mal armés, on a très peu de chances de survivre. Bon, voilà un exemple. Alors, autrement dit, on voit là, sur un tout petit exemple, comment le sociologue, mais je m'en expliquerai mieux par la suite, le sociologue s'attache à des traits qui sont tout à fait les mêmes que ceux que touche l'évocation littéraire de la littérature, mais il les construit autrement, à partir d'une intention que l'on peut récuser, et alors je finirai là-dessus, à partir d'une intention de découvrir un système explicatif. Alors ça peut paraître intolérable, mais système explicatif, le sociologue n'oublie pas que ça s'applique à lui-même. Hein. Un système explicatif qui rendrait raison du fait que les gens ont écrit ceci plutôt que cela, ils ont écrit du burlesque plutôt que du pastoral, etc., bon, qu'ils ont écrit comme ceci plutôt que cela. Le sociologue donc se donne pour ambition de donner une science rigoureuse de ce que font les gens. Alors, question tout à fait fondamentale. Est-ce que, est-ce qu'il ne détruit pas le plaisir? J'ai tout de suite une question que Mallarmé a posée dans des termes qui sont absolument les miens. Donc Mallarmé, qui est souvent invoqué pour célébrer l'ineffable, des discours dans le fameux texte sur la musique et les lettres, dont je pourrais, si vous voulez, vous dire ce qui me paraît être le contenu, dont je pourrais dire le contenu. Mallarmé a posé très clairement ce problème. Est-ce que ce qu'il appelle le démontage impie de la fiction, en gros il dit la littérature est peut-être une fiction collective à laquelle nous tenons beaucoup, à laquelle nous collaborons, cette fiction, est-ce qu'il faut la démonter? Et moi très souvent, à la fin de mes conférences, surtout aux États-Unis, parce qu'en France je ne m'y risque pas, je dis toujours Mallarmé est bien utile, parce qu'il va me permettre de vous dire, sans me renier en tant que savant, j'ai fait de mon mieux de savant, cela dit j'aime bien la littérature, et je ne voudrais pas que vous pensiez que le démontage impie de la fiction était une destruction de la littérature. Et alors Mallarmé dit, en termes extrêmement ésotériques, je pense que je suis le premier à avoir lu ce texte, parce que tout le monde l'a lu, mais on ne voyait pas ce qu'il voulait dire, parce que ceux qui le lisent voulaient lui faire lire tout à fait l'inverse. Mallarmé dit, au fond, la littérature est une fiction collective entretenue par les écrivains, etc. Nous en participons tous, mais est-ce que nous pouvons la sacrifier par ce démontage impie qu'opère la science, sans perdre l'essentiel, qui est le plaisir littéraire? C'est une question que je pose et que je me pose. Bon, alors donc on est en droit de nous dire la littérature doit rester aux mains de la littérateur. Les sociologues n'ont pas à y toucher parce qu'ils vont démonter la fiction. Cela dit, moi je pense que là, il n'y a pas de raison d'arracher un îlot de sacré à la science. La science a fait la science des religions, elle peut faire aussi la science de la religion littéraire. Et je pense, alors, ça c'est une expérience personnelle, que le démontage impie de la fiction ne détruit pas le plaisir littéraire. Voilà.
Merci. Là, je dirais, il y a évidemment une multitude de questions comme ça qui se lèvent à chaque mot. Je donne tout de suite la parole à Michel Chaillou.
D'abord, je voudrais remercier Pierre Bourdieu pour les gentillesses qu'il a dit sur mon travail. Bien sûr, j'accepte tout à fait ces gentillesses. Et je voudrais essayer de vous expliquer en partie, ça recoupera beaucoup d'éléments qui ont été évoqués par Pierre Bourdieu. Je voudrais essayer de vous expliquer comment est née cette idée de collection, et peut-être que c'est un projet assez lointain, et peut-être que mon discours va peut-être vous choquer, du moins je l'espère un peu, et dans la mesure où il sera plein d'obscurité. Non pas que je cherche l'obscurité pour l'obscurité, mais parce que, justement, j'ai beaucoup de difficultés, c'est pour ça que je suis romancier, à composer un discours clair. Je dirais même que, dès que je considère le mot clarté, il m'apparaît un peu vibratile dans l'obscur. Il y a une phrase, je partirai des phrases, il y a une phrase qui m'a complètement fasciné, qui me fascine depuis des années, que je vais vous dire, que j'ai recopiée sur ce cahier, et qui est la suivante, c'est une phrase de Plutarque dans Les Vies parallèles, et c'est là où je voudrais situer mon intervention. Voilà ce que dit Plutarque. Au-delà des temps, s'étend le domaine monstrueux des poètes et des romanciers, où l'on ne trouve plus de certitude ni de précision. C'est un peu mon cas. Et pour vous expliquer à peu près mon cheminement intellectuel et ce par quoi je suis arrivé à cette idée de collection brève chez Attier, qui j'espère ne sera pas une expérience brève, c'est parce que c'est lié à une activité de lecture qui me mène depuis que je sais lire, peut-être même que je savais lire avant de savoir lire. C'est-à-dire que pour moi, écrire, c'est lire. Je dirais même que la racine de l'écriture, c'est la lecture. Écrire, c'est lire un livre qui n'existe pas encore, et c'est la profondeur, c'est la lecture. Il n'y a que la lecture, que ce soit la lecture des livres, que ce soit la lecture de la réalité, que ce soit ce qu'on appelle la réalité. Et en fait, dans cette collection, j'ai été une sorte comme le guide du château. Vous savez, quand vous allez vous promener dans des châteaux, vous tombez sur un guide bavard, souvent un ancien domestique. Cette possession du domestique chez moi est d'ailleurs très, très étrange. Je fais une petite digression. J'ai toujours le sentiment que le domestique est à l'office et il entend le bruit. Il aide à la vaisselle et il entend les maîtres qui parlent dans la pièce à côté. Et pendant très longtemps, j'ai cru que le discours des maîtres était plus important que le bruit de la vaisselle et j'ai compris que c'était la vaisselle et le discours des maîtres qui étaient très importants. Ce qui vous explique, je continue encore une deuxième digression et j'arriverai ensuite au guide tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Quand je lis l'Odyssée, le personnage qui m'intéresse plus qu'Ulysse, Ulysse ne m'intéresse pas beaucoup. S'il est trop rusé et pas assez généreux, je préfère Achille, bien sûr. La mort en art, être tué par Achille, c'est magnifique. Quand on arrive dans une œuvre à être tué par Achille, c'est la seule mort acceptable en art. Mais pour revenir à cet épisode d'Ulysse, vous rappelez quand Ulysse rencontre le Cyclope dans la caverne et que le Cyclope, d'accord, il est féroce. Bon, Polyphène est féroce, il va l'aveugler, vous connaissez l'histoire. Et j'ai toujours été du côté du Cyclope. Quand le Cyclope crie et qu'il crie personne, j'ai le sentiment qu'il est un écrivain. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'hurlement profond des entrailles qui est complètement physique et qui est pour moi ce qu'on appelle la littérature, qui est très différente du littéraire. Le littéraire, c'est peut-être pas la littérature. C'est la littérature, c'est la vie intérieure de la langue. C'est faire de chaque nom commun un nom propre. La littérature, c'est retrouver l'oralité des morts. La littérature, c'est un monde lointain dont on s'approche et dès qu'on le fige en cherchant la beauté, la littérature a disparu. Alors, pour revenir à ma première image, le guide du château, dont vous êtes dans ce château, et ce guide, en général, tient un propos, surtout si j'en ai rencontré, vous avez dû en rencontrer quelques-uns comme ça, c'est souvent un ancien domestique qui a un savoir, qui est un savoir pas très bien maîtrisé, délirant peut-être parfois, à la fois fondé sur des souvenirs réels et sur des connaissances réelles, en même temps sur des connaissances bavardes. Et j'avais le sentiment, au début, je passais par un certain mépris, ça m'agaçait souvent que dans ce château, je savais des choses aussi sur ce château, c'est pour ça que j'allais le visiter, pour éprouver mon savoir. Et brusquement, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très beau dans ce guide du château sentimental. Et peut-être qu'un écrivain, c'est ça, c'est un guide de château sentimental et sourd, qui perd sa science comme on perd son sang, et qui invente des discours au fur et à mesure devant des auditoires ébaubis par l'hilarité, le délire de ces discours. Et en créant cette collection brève chez Attier, j'ai essayé d'être ce guide de château sentimental et sourd, parce que je crois qu'un... et aveugle, dirais-je, parce qu'un écrivain est aveugle. Il avance dans la langue seulement par l'oreille. S'il regarde, il écrit des histoires qu'il voit et qu'il peut raconter. Et en fait, la littérature commence quand on n'a plus rien à dire. Et donc, quand on n'a plus rien à dire, on avance à l'oreille. Et c'est en avançant à l'oreille, dans la lecture, qu'on trouve, me semble-t-il, la littérature. Pour essayer de vous faire mieux comprendre ce que j'essaye de vous dire avec confusion, c'est ceci. Il y a une histoire qui me fascine depuis toujours, une histoire un peu mythique qu'on doit au poète grec Musée, qui est du 5e siècle après Jésus, et qui est l'histoire de Héro et Léandre. Cette histoire, je vous la rappelle, c'est une histoire qui me fascine et elle me semble être caractéristique de l'activité littéraire. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Je vous raconte le début de l'histoire. Léandre est un jeune homme qui habite à Abydos, une ville de l'autre côté du détroit de l'Hellespont. Héro est une jeune fille vierge qui vit dans une tour à Sestos, en face. Et tous les soirs, Léandre, amoureux de Héro qu'il a vu dans une fête, franchit à la nage l'Hellespont, qui a 1,4 km, je crois, à peu près, et avec des courants divers et multiples. Et qui vient adorer Héro. Il rentre en contact avec elle, il se fait aimer d'elle, et devenu l'époux clandestin de cette jeune fille, il repart tous les soirs, après la nuit passée un petit peu avant l'aurore, vers sa ville natale. Et pour le guider dans la nuit difficile et parmi la mer monteuse, Héro laisse une lampe allumée au sommet de la tour. On retrouve là tout le clandestin de la littérature, c'est-à-dire cette activité, cette pratique obscure qui est comparable à la nage entre deux eaux, entre courants contraires, guidée par une faible lumière. Il y a l'amour aussi, c'est-à-dire le désir, en nageant dans le langage, d'essayer d'entrevoir à travers ce langage des mondes qui n'ont rien à voir avec le ciel étoilé. D'ailleurs, on peut peut-être dire que l'écriture, c'est le chemin, c'est la voie lactée de notre ciel intérieur. Donc, Léandre, au bout d'un certain temps, ils sont surpris, il est obligé de repartir très vite, et dans la nuit, la mer mauvaise, il mourra au retour. Mais écrire, c'est pas seulement l'aller de Léandre vers Héro, je crois que c'est plutôt le retour de Léandre et qui se terminera par un naufrage. C'est-à-dire que toutes les œuvres comprennent cette double mobilité de l'aller et du retour, mais surtout essentiellement le retour. Pourquoi essentiellement le retour? Parce que c'est le souvenir de l'aller, et qu'il n'y a pas de littérature sans mémoire, que la phrase n'est que la mémoire de son empreinte cachée. que l'on va de cache en cache à travers la littérature. Et pour moi, lire la littérature, il n'y a pas d'auteur mineur, il n'y a pas d'auteur majeur, il n'y a pas d'hiérarchie. Les hiérarchies, je m'en moque. Bien sûr, il y a des auteurs qui paraissent plus grands que d'autres, Corneille, vers lesquels va ma sympathie, que Molière, mais Molière a aussi écrit de grandes œuvres. Mais c'est surtout parce que ce que je cherche, c'est qu'à travers toutes les phrases qu'elles s'expriment, soit dans une pièce de théâtre, soit dans un roman, soit dans un poème, je crois que les genres sont artificiels. Et je pense que, par exemple, ce qu'il faut rechercher, c'est la phrase à travers toutes les phrases, celle qui porte véritablement la vie de l'esprit. J'écris pour essayer de conquérir mon esprit. Comme je n'y arrive jamais, j'invente des fictions d'ombre qui m'en rapprochent. Mais ces fictions d'ombre, ce sont des romans. Ça peut être une histoire de la littérature. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de prédilection chez moi pour tout ce qui est obscur, tout ce qui est hésitant, approximatif. Dès que quelqu'un est certain de quelque chose, il y a un rire en moi qui se déclenche. Je ne crois pas aux certitudes. Quand un texte s'annonce comme philosophique, je ne crois pas à sa philosophie. Peut-être ai-je tort, mais j'ai toujours l'impression que la philosophie sera plus grande que lorsqu'elle sera hors de la philosophie. La tête hors. Lorsqu'elle aura passé sa tête à la flamme de la philosophie, qu'elle aura été obligée de se dégager pour éviter d'être complètement brûlée par elle. Aussi la poésie. La poésie doit être hors de la poésie pour ne pas se condamner à être seulement poétique. C'est pour ça que dans un de mes livres qui s'appelle La petite vertu, j'ai inventé cette notion, faute de mieux, la prose courante. La prose d'écrivains, de gens qui n'étaient pas des écrivains. Comme si le temps, depuis La petite vertu, c'est une anthologie qui se passe au début du XVIIIe siècle sous la Régence, comme si le temps, depuis cette époque, était devenu un écrivain et avait donné à des textes anodins une valeur éternelle. Et donc,